de l'Europe, il va en être justement question encore avec vous, Hubert Védrine, bonjour. Le Monde, selon Hubert Védrine, les premiers ministres de 6 pays des Balkans ont été réunis hier à Tirana et ont exhorté, justement, l'Europe à financer leur développement économique, affirmant qu'ils seraient ainsi en mesure d'assurer la stabilité de leur région, toujours secouée par des tensions ethniques. Et vous y étiez, Hubert Védrine, vous revenez de Tirana.
Oui, ne souriez pas, mais j'étais invité en tant que sage. Wise man.
Ah oui, si, on peut sourire un peu. Oui,
bah, ouais. Avec Joschka Fischer, on peut sourire aussi. Massimo D'Alema, ancien président du Conseil italien, et quelques personnalités comme ça. On est invité par Edi Rama, qui est le premier ministre d'Albanie, qui est d'ailleurs un parfait francophone. Il y a énormément de francophones, même jeunes, en Albanie. Il a passé une partie de son enfance à Paris, mais il voulait associer des personnalités qui avaient été associées à des moments importants de la construction européenne, ou alors des drames, comme l'affaire du Kosovo, à cette rencontre, parce que, plus important encore que ce que vous venez de citer, c'est la première fois qu'un premier ministre serbe venait en Albanie.
L'autre événement, c'est celui-là, visite historique du ministre serbe, oui, en Albanie. Ouais.
On peut dire que c'est historique pour eux, mais enfin, c'est quand même l'antagonisme entre les Albanais, les Albanais d'Albanie, Albanais du Kosovo, Albanais de Macédoine, etc. Et la Serbie, c'est quand même fondateur, et puis c'est pas les mêmes empires, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, les populations musulmanes, plutôt musulmanes, donc c'est un islam très modéré, quasi laïque. Et puis d'autre part, l'ancien empire orthodoxe, enfin les zones orthodoxes. Bref, pour eux, c'était absolument considérable. Et je crois que c'était, je voulais saisir cette occasion d'en parler, parce que c'est une zone de l'Europe dont on se préoccupe plus, puisque nous sommes dans une phase très difficile au sein de l'Union européenne, avec des tensions internes, des préoccupations internes, les obsessions sur comment faire marcher la zone euro, la question britannique, enfin, mille sujets, quoi. En Europe, et les populations européennes sont à cran, les populations européennes veulent absolument pas plus d'intégration.
Oui, c'est encore la une du
politique.
Figaro de ce jour, hein, 10 ans après, la France
62%.
Redirait non, quoi.
Elle dirait non plus fortement.
Encore,
plus fortement. Ouais. 62%. Et or, là, dans ces zones-là, eux, ils rêvent d'Europe. Ils rêvent d'une Europe totalement abstraite et totalement idéale. Ils tiennent absolument pas compte des processus de préparation, de mise aux normes, de mise à niveau, de changement de loi, de décrets, de règlements, de mise au niveau de l'administration, d'application des réformes, parce qu'il y a plein de réformes annoncées, mais dont aucune n'est appliquée. Donc c'est quand même très intéressant de voir ces pays ensemble, qu'essaie de travailler, qu'essaie de dire à Bruxelles et aux autres dirigeants, français, allemands, etc., nous sommes pré-entrés dans le processus, quand on leur dit l'Europe est absolument hors d'état de gérer un élargissement. Les traités d'adhésion ne seraient pas ratifiés, tout simplement, à supposer qu'ils soient négociés et conclus. Alors ils sont terriblement dépités, ils disent « mais on est impatients d'entrer », alors on dit « mais faites les étapes, préparez-vous, ayez des projets communs, ils ont plein de projets communs sur le papier ». D'autoroutes, de routes, de ports, d'avions, de ceci, cela, d'union électrique, plein de choses, parce que, or, c'est des pays qui étaient habitués à être antagonistes. Ou alors, ils disent, on va pas revenir à l'ancienne Yougoslavie, qui était quand même une structure, malgré tout, sous Tito, de coexistence de l'ensemble de ces populations. Alors, autant il faut être réaliste qu'en effet, l'Europe a besoin de se réconcilier avec elle-même, avant d'être capable d'aller plus loin. Autant ce serait absurde de négliger, comme on le fait aujourd'hui, trop. L'ensemble de cette zone, c'est des petits pays, mais au total, il y a 20 millions d'habitants, malgré tout, si on prend Serbie, Kosovo, Albanie, Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, une vingtaine de millions d'habitants, et d'autres puissances s'y intéressent, plus que les Européens d'aujourd'hui. Il y a une politique russe dans la région. Par exemple, il y a eu des petits incidents en Macédoine, qui n'est pas du tout fondé sur la question albanaise. Les dirigeants russes en parlent 3 fois par jour, pour faire un feu, monter la sauce. Il y a une politique turque. Alors certains apprécient qu'il y ait une sorte de reconstitution d'une influence type ottomane, mais d'autres pas du tout, parce qu'ils pensent que ça les aide. En fait, la Turquie d'aujourd'hui les éloignerait plutôt de l'espérance mythique européenne. Il y a une politique chinoise. Il y a quelque temps, il y a une réunion en Roumanie autour du premier ministre chinois de 16 pays d'Europe, centrale et orientale et balkanique. Et le Premier ministre albanais m'a dit, c'était fascinant, c'est comme si on était face à l'empereur de Chine. Quoi. Les gens étaient là, déférence, etc. Il y a une politique turque, je l'ai citée, mais il y a aussi, dans certains communiqués de Daesh, l'État islamique, ils considèrent que le sud-est de l'Europe, les Balkans, là on parle des Balkans occidentaux, parce que les autres sont déjà dans l'Union européenne, comme il y a des musulmans à peu près partout, en majorité en Albanie, mais ailleurs ce sont des minorités, ils considèrent que c'est une zone d'influence utile pour eux. Et il y a des luttes d'influence sur qui finance les constructions de mosquées. Vous voyez ? Donc, Tout ça nous ramène à l'idée que cette partie-là de l'Europe, qui en effet pas du tout en état d'entrer, et l'Europe n'est pas en état d'accueillir de nouveaux membres, naturellement.
Mais ils les reçoivent comment, alors? Quand vous leur dites, vous, le sage, c'est bien joli, mais n'y comptez pas.
Ah, ils me trouvent pas sage du tout, du coup.
Oui, non, mais comment la réaction, c'est quoi? Dépit, c'est quoi?
Ils disent, bon, mais enfin, c'est pas parce que vous êtes fatigué, vous, les Européens.
Ils ont pas tout à fait tort, hein.
Non, mais c'est un fait. Ouais. Les Européens, ils sont plus que fatigués. Il y a un divorce, on en parlait une autre fois, il y a un divorce absolu entre les élites intégrationnistes et les populations qui adorent l'idée européenne, si on va pas leur vampiriser ce qu'il leur reste de souveraineté. Bon, mais ça, c'est une parenthèse. Donc, ils disent, bon, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit, bah, préparez la future négociation, mettez au point des projets. Et là, la France a un rôle à jouer. Et en Albanie, alors, donc, petit pays absolument ravissant, pittoresque, intéressant, il y a une vraie carte en plus française, pas simplement européenne à jouer, parce qu'il y a une francophilie, il y a une francophonie en Albanie, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin bref, il ne faut pas négliger la dimension stratégique de cette zone de l'Europe.
Voilà, et ne pas non plus sauter comme un cabri en criant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Le Monde selon Hubert Védrine, à retrouver sur franceculture.fr.